Qui donc sera sauvé? Et est-ce que tout le monde pourra être sauvé, les bons, les méchants? C'est une question compliquée qui n'est peut-être pas d'ailleurs la question qui préoccupe le plus nos contemporains. Autrefois, c'était certainement beaucoup plus présent du temps de la Réforme, du temps du Moyen-Âge, c'était une question cruciale de savoir qui serait sauvé. Aujourd'hui, la plupart de nos contemporains professent une sorte d'universalisme généreux et sympathique. Tout le monde sera sauvé. Nous irons tous au paradis, les voleurs comme les bonnes sœurs, et finalement, l'enfer n'existe pas. J'ai même entendu il y a peu un évêque romain qui est supposé croire à l'enfer. On lui a dit « Mais Monseigneur, vous ne croyez pas à l'enfer quand même ?» Et il a dit « Si, je crois à l'enfer, mais je crois qu'il est vide. » En effet, voilà, c'est sympathique, c'est généreux, mais je crois que c'est simpliste et imbécile. Parce que, en effet, d'abord, ça ne résiste pas au passage aux limites. Oui, ça nous rassure, évidemment, comme ça on est tranquille, on n'a pas peur pour notre salut. Si tout le monde est sauvé, donc moi je le serai, et ça m'arrange. Mais quand on regarde le passage aux limites, dans ce paradis, il y aura beaucoup de monde. Il va y avoir Hitler qui va se promener dans les couloirs. Ça fera un petit peu désordre, comme on dit. Et alors là-dedans, on va trouver côte à côte Jésus, qui va Judas, on va trouver Gengis Khan, on va trouver finalement les meilleurs comme les pires. Et est-ce que vraiment nous pensons que Hitler peut être sauvé? Est-ce que vraiment nous pensons que Judas peut être sauvé? Quand on parle de ces cas-là, on se rend compte que non, ça n'est pas possible. Ou si jamais Dieu vraiment sauve tout et tout le monde, alors Dieu devient une sorte de n'importe quoi. Alors à ce moment-là, il n'y a plus ni bien ni mal. Si Dieu accueille à bras ouverts les bons comme les méchants, je dirais quel est l'enjeu même de l'existence? Dieu deviendrait même d'une certaine façon le complice du mal, du crime, de la violence et de toute chose épouvantable. Alors qu'en est-il? Dans la Bible, regardons la Bible, puisque nous autres protestants, nous disons, voilà, c'est l'Écriture qui est la source de notre inspiration. Dans la Bible, il faut être bien honnête et remarquer que l'universalisme béat dont j'ai parlé n'existe pas. Dans la Bible, ce n'est pas du tout cela. Il y a effectivement des sauvés et il y a des réprouvés. Il y en a qui sont sauvés et il y en a qui sont perdus. Dans la Bible et même dans la bouche du Christ, il y a de nombreux passages qui évoquent la géhenne. Il y a de nombreux passages où Jésus dit, vous savez, ils seront jetés dans le feu qui ne s'éteint point, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et il y a de très nombreux textes pour essayer d'expliquer les critères, qu'est-ce qui fait que l'un sera sauvé et que l'autre ne le sera pas. Alors donc, dans la Bible, il faut bien être honnête et reconnaître que si l'on veut professer une sorte de générosité universelle du salut offert à tous, eh bien, on a le droit, bien sûr, mais ce n'est évidemment pas évangélique, en tout cas. Alors, si tout le monde n'est pas sauvé, s'il y a des perdus, le problème, me direz-vous, c'est quel est le critère? Alors ça, là-dessus, vous avez tous un petit peu des idées. Est-ce que ce sera les œuvres? Est-ce que l'on va penser que seront sauvés? Alors il y aurait une sorte de balance, de pesée des âmes à la fin, comme dans les religions primitives, où Dieu regarderait et suivant qu'on ait fait plus ou moins de bonnes œuvres, alors on serait envoyé en enfer ou au paradis? Non, certainement pas. Certainement pas. Et le Christ lui-même a tout fait pour brouiller les cartes dans sa vie et dans sa prédication. Le Christ a accueilli des prostituées. Il a dit que certainement bien des prostituées et des pécheurs précéderont les champions des bonnes œuvres qu'étaient les pharisiens. Le Christ a annoncé le salut immédiat et sans condition au larron sur la croix, sous prétexte qu'il a dit en une phrase qu'il trouvait que c'était quand même pas très juste que Jésus soit sauvé, enfin soit crucifié, pardon. Il a dit que les premiers seraient les derniers. Enfin bref, Jésus a tout fait pour, je dirais, pour mélanger les cartes et justement pour sortir de cette logique d'un jugement par les œuvres. Donc certainement, non. Si je veux être évangélique, je dirais S'il y a un jugement, ce n'est pas par les œuvres. Alors, par quoi donc ? Ah oui, par la grâce, c'est ce qu'on enseigne. Voilà, les protestants disent « nous sommes sauvés par la grâce ». Ça, c'est une bonne chose, par la grâce. Dire que l'on est sauvé par la grâce, cela veut dire que, d'une certaine façon, Dieu a d'autres critères qui sont bien à lui et que Dieu peut choisir de sauver qui il veut. Alors là, ça nous emmène dans une autre complication terrible. Parce que si ce n'est pas par les œuvres, et si Dieu peut choisir de sauver qui il veut, vous voyez tout de suite dans quelle direction je me dirige, c'est celle de la prédestination calvinienne, c'est-à-dire que Calvin, qui prétendait que Dieu choisissait d'en sauver certains, il choisissait d'en perdre d'autres, c'était sa volonté libre et souveraine, et c'était indépendant de l'homme. Et c'était la thèse de Calvin. Aujourd'hui, je ne connais pratiquement pas un chrétien, même un protestant, qui professe ce genre de doctrine. On trouve qu'il y a là-dedans une sorte d'arbitraire divin qui est insupportable, et on ne voit pas du tout pourquoi Dieu choisirait, à un moment donné, d'envoyer à la perdition quelqu'un qui n'y est pour rien. Donc la prédestination aujourd'hui ne fonctionne pas. Alors nous dirons, non, on n'est pas sauvé par la grâce. Voilà, on est sauvé par la foi. Ça, c'est déjà beaucoup plus facile. On est sauvé par la foi, c'est-à-dire que le but, ce n'est pas de faire les bonnes œuvres, c'est de vouloir les faire de tout son cœur. C'est déjà un peu plus facile. Et en effet, on trouve en particulier dans bien des passages de l'Évangile de Jean, ces versets qui disent, ou qui fait dire à Jésus, « Celui qui croit en moi ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. » Et donc, tous ces passages de Jean qui présentent que ce qui nous sauve, c'est la foi en Jésus. Alors ça pourrait être un critère. Voilà, ce qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Mais là, encore problème. C'est que Hitler croyait en Dieu, apparemment. Enfin, en tout cas, il mettait Gott mit uns sur les ceinturons de ses soldats. Et puis, d'autre part, que faire alors de tous les gens qui n'ont pas entendu prêcher l'Évangile ? Il y aurait quand même une forme d'injustice. Est-ce qu'il faudrait croire que le salut serait réservé à ceux qui auraient foi en Jésus-Christ ? Et puis ça entraîne un autre type d'angoisse. Tous les matins, je vais me dire, mais est-ce que je crois assez en Dieu ? Est-ce que ma foi est suffisante pour être sauvée ? Et Dieu juge la foi avec quels critères ? Il y a un thermomètre de la foi, en quelque sorte, et il faudrait avoir la moyenne, comme à l'école, pour pouvoir être sauvé. Vous voyez que ça pose de graves problèmes. Et en plus, il y a un passage dans l'Évangile qui va totalement à l'encontre de cette hypothèse. C'est ce que l'on appelle le jugement des nations dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25. Quand Dieu, nous dit-on, sépare les bons des méchants, et puis il dit « Venez, vous qui êtes les chéris de mon Père ». Et ils disent « Mais comment, nous, on ne te connaît même pas. On ne t'a jamais vu, on ne sait pas qui tu es », disent-ils à Jésus. Et le maître dit, ben, chaque fois que vous avez fait un peu de bien au plus petit d'entre mes frères, c'est comme si vous l'aviez fait à moi, donc vous êtes sauvés. Ah, alors du coup, ben, on retombe dans un salut par les œuvres. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de connaître Jésus, ce n'est pas de croire en lui, le but, c'est d'avoir fait du bien. Donc vous voyez qu'on tourne un petit peu en rond dans cette affaire et que tout cela est extrêmement compliqué. Alors sûrement, je crois que le problème, c'est que la question est mal posée. La question est mal posée parce que, effectivement, dès que l'on pose la question de cette manière-là, eh bien, on tombe, je crois, nécessairement dans une absurdité. Soit dans le salut pour tout le monde, soit dans un salut pour les œuvres, soit dans la prédestination. Il n'y a en fait, pardon, il n'y a en fait pas, je crois, de réponse simple. Et pourquoi ? Parce que nous pressentons que, en fait, personne n'est totalement bon ou totalement méchant. Et du coup, c'est très difficile d'envisager le salut sous une approche binaire. C'est-à-dire, il faut être soit sauvé, soit perdu. Parce que les très mauvais, on sait où les mettre. Les très très bons, on sait où les mettre. Mais tous ceux qui sont entre les deux, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et on se rend compte qu'il y a, à ce moment-là, nécessairement une injustice. Parce que s'il n'y a que deux catégories, sauvés ou perdus, ceux qui sont juste à la limite, c'est insupportable. Alors, si c'est la foi, Alors il va y en avoir un qui va être sauvé, hop, il va être avec Jésus-Christ, Mère Teresa, tous les gens très bien. Et puis il y en aura un qui aura douté une seconde de plus dans sa vie, et lui, il va être envoyé avec Hitler. C'est quand même terrible. C'est que finalement, comme on disait dans mon enfance à propos des études, le dernier reçu est quand même très proche du premier collé. Et que par conséquent, il y a une injustice absolument intenable dans cette affaire. Et par conséquent, je crois que c'est pour ça que l'Église moyenâgeuse, médiévale plutôt, s'est dit, puisque c'est pas tenable cette histoire paradis-enfer, ils ont inventé le purgatoire. Et le purgatoire n'est évidemment pas biblique, et personnellement je ne pense pas que ce soit la bonne solution à la question, mais le purgatoire permet de résoudre cette énigme, de dire, ben non, il y a des très mauvais, des très bons, mais la plupart des gens sont un peu entre les deux, et donc voilà, on les met au purgatoire, et puis là, on leur fait un peu payer les machins, les trucs, enfin bref, il y a une zone de l'indéterminé. Alors nous, protestants, nous n'avons pas de chance, parce que comme le purgatoire n'est pas biblique, on n'y croit pas. Et alors du coup, on est encore une fois un petit peu coincé. Donc je vous disais, je crois que l'erreur, c'est d'avoir voulu considérer le salut comme étant quelque chose de binaire, soit on est sauvé, soit on est perdu. Et je crois qu'effectivement, la solution qui aujourd'hui me semble la plus intellectuellement supportable, c'est de penser que la ligne de démarcation entre le salut et la perdition ne divise pas l'humanité en deux, mais d'une certaine façon passe au milieu de nous, parce qu'en nous, il y a du bon et il y a du mauvais. Mais je ne peux pas penser que si je suis sauvé, j'espère bien que Dieu ne va pas me garder pour l'éternité avec mes maux de tête, mes mauvaises humeurs, mes jalousies, mes attachements mauvais ou je ne sais quoi. J'espère bien que si par hasard je suis sauvé, j'espère bien qu'il ne gardera qu'une image, je dirais, épurée de moi-même, qu'il ne gardera que la meilleure partie de moi-même. Alors peut-être est-ce cela le jugement ? Le jugement peut-être que ce n'est pas de séparer l'humanité en deux, les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, mais que le jugement est quelque chose qui intervient dans chaque être humain pour essayer de trouver dans chaque être humain ce qui est le bon et ce qui est le moins bon ou le mauvais. Et du coup, ça permet de réhabiliter un élément qui a eu une très grande importance dans la question du jugement et qui aujourd'hui ne plaît pas beaucoup. C'est la notion de feu. On a souvent imaginé l'enfer comme un feu, le jugement comme un feu qui consume et qui brûle. Et je vous ai lu ce passage de 1 Corinthiens 3 qui dit que le jour fera paraître les œuvres de chacun comme au travers le feu. Mais justement, c'est que ce feu dont parle Paul n'est pas un feu pour punir, ce n'est pas un feu pour nous faire souffrir avec des diables qui nous piquent les fesses avec des tridents, mais ce feu, c'est un feu qui purifie, un feu qui brûle tout ce qui ne vaut rien. Et ce chapitre de Paul, de 1 Corinthiens 3, est pour moi a été, je dirais, une révélation de ce que l'on peut croire dans ce domaine. Parce qu'il dit, vous savez, chacun construit sa vie avec des éléments différents. Et dans la vie de chacun, il y a du bien et du moins bien. Alors lui, il dit, il y a dans la vie de chacun, il y a du métal, de l'or, des pierres précieuses. Puis il y a aussi du foin, du chaume, de la paille. Et il dit, le jugement va agir là-dessus comme à travers un feu. Alors le feu, ben, il va brûler la paille, il va brûler le foin, il va brûler le chaume, mais il va laisser les pierres précieuses, l'or, le diamant, tout ce qui est dur et tout ce qui est bon. Effectivement, je pense que peut-être est-ce comme cela. C'est que nous serons, je le crois, tous sauvés. Je le crois, oui, nous serons tous sauvés, mais nous serons tous sauvés comme au travers le feu. C'est-à-dire que nous serons tous sauvés, mais que heureusement, tout ne demeurera pas de nous-mêmes, et que Dieu garde que le meilleur de chaque existence. Il y a de très nombreux passages comme cela dans l'Écriture, des passages où le Christ présente l'œuvre de Dieu dans le jugement comme une moisson. Regardez la parabole du bon grain et de l'ivraie, où on dit, ben voilà, dans un champ, il pousse du bien et du pas bien. Et il dit, ben laissez tout ensemble. Et puis simplement, à la fin, Dieu moissonne, et puis tout le bon grain, il le garde dans son grenier, et l'ivraie, il le jette au feu. Ah, encore le feu. Et il ne s'agit pas de dire, ne s'agit pas de dire que l'on va réfléchir et que je vais dire, bon, vous, vous êtes du bon grain, vous êtes de l'ivraie, donc vous, c'est vous perdu, vous sauvez. Mais c'est en chacun de nous qu'il y a du bon grain et de l'ivraie. C'est une évidence. Alors ça veut dire que dans le salut, eh bien Dieu, il nous prend comme nous sommes, tout entier, et puis il ne garde que le meilleur. Et le reste, il s'en moque. C'est ça la notion de géhenne. Vous savez, souvent, l'Évangile parle de la géhenne. Et la géhenne, savez-vous ce que c'est? La géhenne, c'est un lieu géographique qui existe encore à Jérusalem. On peut s'y promener. Moi, j'ai marché dans la géhenne, d'ailleurs, et j'en suis revenu sain et sauf, parce que c'est une vallée, la vallée de la géhenne, et qui, aujourd'hui, est lotie, mais qui, du temps de Jésus, c'était une vallée à côté de Jérusalem qui servait de décharge municipale. On y jetait les ordures, les chiens crevés et tout ça, et puis on ne s'en occupait pas, et de temps en temps on y mettait le feu pour que ça brûle. Eh bien voilà l'image que j'ai moi de l'enfer. Je ne crois pas au châtiment éternel, mais je crois qu'il y a effectivement un feu qui est une poubelle, et que l'enjeu de la vie, l'enjeu du salut, c'est soit d'être sauvegardé pour l'éternité dans la mémoire de Dieu, et tout ce qui ne mérite pas d'être sauvegardé, ça va à la poubelle, c'est jeté, ça ne vaut rien. Mais je dirais, c'est une bonne nouvelle, parce que Dieu ne jette pas des trésors à la poubelle. À la poubelle, il ne jette que les plus mauvaises parties de nous-mêmes. Et aussi, il n'est pas inepte que quand nous faisons des services funèbres, eh bien, nous faisons des services funèbres pour des gens ordinaires, eh bien, dans un service funèbre, on ne dit que le bien. Alors certains s'en offusquent, mais moi je trouve que c'est bien de faire ainsi. Dans un service funèbre, on présente les gens comme Dieu les voit et comme ce dont Dieu va se souvenir. Voilà l'œuvre de Dieu. C'est que la création, le monde, la terre et nos vies sont comme des champs dans lesquels poussent des fleurs, des fruits, des grains d'amour, de bonté, de gratuité, de générosité. Et c'est ça que Dieu moissonne. Et c'est ça qui donne la dignité d'une vie. La grandeur d'une vie humaine ne tient que par l'amour qu'elle a pu faire fleurir, que par les choses belles, grandes, gratuites, bonnes, qui ont pu surgir de cette vie. C'est ça qui fait la consistance d'une vie éternelle. La vie éternelle est faite de cela, et elle n'est faite que de cela. Paul le dit d'ailleurs dans cet autre passage de 1 Corinthiens 13 que l'on lit à chacun des mariages. Tout passera, il n'y a que trois choses qui demeurent, et la plus importante, c'est l'amour. Seulement l'amour demeure éternellement. Tout le reste, c'est dans la poubelle. Alors voyez-vous, si donc vous me demandez, est-ce que les mauvais seront sauvés? Eh bien, je crois qu'ils seront sauvés comme au travers le feu. Et que par conséquent, eh bien, je pense que si l'on prend le cas le plus extrême de notre XXe siècle, Hitler, sera-t-il sauvé? Eh bien, je pense que peut-être un jour, même ce monstre a-t-il pu avoir un geste de bonté. Peut-être qu'un jour, il a eu pitié, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, il a donné gratuitement. Peut-être qu'un jour, il a aimé. Eh bien, si un jour, il a fait cela, si un jour, il y a une fleur qui a poussé sur un tas de fumier, je crois que Dieu a cueilli cette fleur et que Dieu l'a gardée. Pour ne pas être sauvé, il faudrait que dans une vie humaine, il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas eu une minute de bonté, qu'il n'y ait pas eu une trace d'amour, qu'il n'y ait pas eu une trace de générosité, qu'il n'y ait eu rien, de rien, de rien, de rien, de rien. Est-ce possible? Je ne sais pas. Alors néanmoins, cette thèse est séduisante, mais là où elle choque certains, c'est que du coup, on a l'impression qu'il y a des grands et des petits dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que Jésus, par exemple, il est entièrement bon. Et je crois que Jésus, c'est ça, la résurrection du Christ. C'est que quand Jésus ressuscite, il ressuscite entièrement. Tout en lui était bon. Il n'y avait rien à jeter. Et d'autres, il n'y a pas grand-chose qui ressuscite. Alors, ce qui est choquant, c'est l'idée, à ce moment-là, qu'il y aurait des grands et des petits dans le royaume de Dieu. Alors que souvent, mes collègues professent que dans le royaume de Dieu, nous sommes tous égaux. Voilà. Ça, c'est l'idée maîtresse d'une grande quantité de la prédication chrétienne d'aujourd'hui. C'est dans le royaume de Dieu, nous sommes tous égaux. Eh bien, frères et sœurs, je ne le crois pas. Et je ne crois pas qu'il y ait d'égalité dans le royaume de Dieu. Et au contraire, je crois que dans le royaume de Dieu, croyez ce que vous voulez, bien sûr, mais je crois qu'il y a des grands et des petits. Et je crois qu'en disant cela, je vais dans le sens même du Christ, qui bien souvent a dit justement, certains des premiers sur cette terre seront les derniers dans le royaume de Dieu. Tiens, donc à des premiers, il y a des derniers dans le royaume de Dieu, ne vous en déplaise. Et d'autre part, il a dit aussi, comme en Luc 7, 28, « Je vous le dis à propos de Jean-Baptiste, parmi tous ceux qui sont nés ici de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est même plus grand que lui, ici-bas sur terre. » Et donc, effectivement, il y a dans le royaume de Dieu des grands et des petits. Mais bon, après tout, être petit, ce n'est pas dramatique non plus. Et effectivement, je ne pense pas que Dieu aime moins l'un que l'autre. Je crois que l'amour de Dieu est le même pour tous et que Dieu a une volonté de salut pour chacun, que Dieu nous prédestine tous à être sauvés, mais que parfois, effectivement, ce salut ne fonctionne peut-être, ne peut-être pas. Effectivement, voilà ce qu'il en est, ce que je crois, c'est que, comme le dit Paul, le corruptible ne peut pas hériter de l'incorruptible, et que Dieu sauve dans ses greniers pour l'éternité tout le bon, tout l'éternel, toute la beauté qui peut s'y trouver. Que c'est là non seulement la dignité de notre vie, mais que c'est même le sens de notre vie. Et que c'est même aussi le sens de la création. La création n'a de sens que parce qu'elle peut faire germer ses fruits et ses grains d'amour. Et c'est cela que Dieu garde. Quant à savoir comment nous serons sauvés, eh bien, n'ayez crainte, parce que effectivement nous sommes tous pécheurs. Pour cela, j'aurais dû vous relire plus en détail l'épître de Paul aux Romains, mais nous sommes tous pécheurs. Certainement, aucun de nous ne mériterait d'être sauvé en tant que tel. Nous sommes tous pécheurs, mais Dieu a voulu sauver tout le monde. Donc certainement, oui, Dieu sauve tout le monde, mais à sa manière. Amen.